Ce qui suit est une production de WebWest Balado. Entendons-nous bien.
Salut, ici Jean Fontaine. Raconte-moi l'Ouest et le Nord. Aujourd'hui, Charlotte Service Longue-Épée. Raconte-moi le barde du Yukon. Robert William Service est un poète et écrivain né en Angleterre en 1874. Après avoir beaucoup vagabondé, c'est à l'âge de 30 ans qu'il découvre le Yukon et ses splendeurs, et c'est là qu'il va vraiment trouver sa voie poétique. On l'a surnommé « The Bard of the Yukon », le barde du Yukon. Robert W. Service a mené une vie fascinante et nous a laissé une œuvre riche de plus de 1200 poèmes et une dizaine de romans. Il a fini ses jours à Lancieux, en Bretagne, et nous a quitté en 1958 à l'âge de 84 ans. Aujourd'hui, son arrière-petite-fille, Charlotte Service Longue-Épée, consacre une bonne partie de sa vie à faire connaître son aïeul et sa poésie au plus grand nombre possible. Elle a signé plusieurs articles, un blog ainsi qu'un roman au sujet de son arrière-grand-père paru en 2015 et intitulé « Robert W. Service, la piste de l'imaginaire ». Et nous la joignons aujourd'hui à Lancieux, en France. Bonjour, Madame Service Longue-Épée.
Bonjour et merci de m'accueillir et de voyager à travers l'Atlantique aujourd'hui.
Puisque vous êtes à Lancieux, je dois vous demander, est-ce que vous êtes dans la même maison qu'habitait votre arrière-grand-père lorsqu'il était à Lancieux?
Alors non, pas tout à fait dans la même maison, mais je suis juste à côté. En tout cas, je partage le même jardin que lui-même et la vue sur la baie qui l'a tant inspiré et qui a été propice à ses rêveries et à ses poésies.
Charlotte, je le disais d'emblée, il nous a quittés en 1958, Robert Service, mais donc vous ne l'avez pas connu de votre vivant. Qu'est-ce qui vous a attiré à mieux connaître votre grand-père et son œuvre?
On pourrait dire la curiosité enfantine, hein? Quand on entend parler d'un personnage illustre dans votre famille, quand enfant j'assistais au lever de drapeau à Lancieux du jumelage entre Lancieux et Whitehorse, quand des personnes venaient et parlaient de Robert Service, ceci a tout de suite éveillé mon intérêt en me disant « mais qui est cette personne ?» Robert Service, c'est mon arrière-grand-père, mais visiblement, il est plus que cela. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à sa vie, à des anecdotes, à son œuvre, aux livres qui étaient dans la bibliothèque avec ses noms un petit peu énigmatiques, Sordo, Chichaco. Je me suis dit, quel est ce langage?
Parlez-nous un peu de sa jeunesse. Donc, il est né en Angleterre, mais il n'y est pas resté très longtemps.
Non, il est né en Angleterre, mais il a été élevé en Écosse et de parents écossais. Donc, il est vraiment écossais à 100% et il a cette culture écossaise, l'accent écossais reconnaissable.
D'accord.
Et c'est quelque chose de... Voilà, l'Écosse a été formateur en tant... Dans son enfance, il a été baigné par Robert Burns, le barde de l'Écosse, Stevenson, un autre écrivain voyageur, qui était quelques années avant lui. Et de cette enfance baignée de lecture, de rêverie et surtout de souhait de découvrir le monde, d'aventures, de grands espaces... C'est ça qui l'a incité à, après ça, traverser l'Atlantique et découvrir le continent américain, le Canada.
J'ai lu en quelque part qu'il voulait devenir cow-boy, qu'il voulait traverser l'Atlantique et devenir cow-boy quelque part en Amérique, mais ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme ça.
Non, la vie qu'il a trouvée au Canada a été différente de celle qu'il avait pu lire dans ses livres de voyage. La réalité était plus difficile. Et il s'est retrouvé parmi tous ces travailleurs, tous ces pionniers qui traversaient les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure et qui effectuaient toutes sortes de travaux de peine, une vie très rude, une expérience au plus près des hommes de cette époque.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il était en quête de lui-même, qu'il se cherchait?
Tout à fait. Derrière cette recherche d'aventure rêvée, imaginée, il y a en fait la recherche de lui-même, une quête personnelle en tant que jeune homme, et au final, en fait, la quête de son destin de poète, puisque l'écriture, la poésie est quelque chose qui l'habitait déjà enfant. Il écrit son premier poème à 9 ans. Et c'était en lui, mais elle manquait, je dirais, de substance pour pouvoir s'épanouir et raconter quelque chose de vrai, d'unique, d'inédit, et qui puisse avoir une portée bien plus large que juste les petits poèmes qu'il écrivait adolescent.
D'accord. Qu'est-ce qui l'a amené dans le Grand Nord canadien, au Yukon?
Alors, avant de découvrir le Yukon, il a donc pas mal vagabondé, notamment sur la côte pacifique, en Californie. Il a fait toutes sortes de métiers, tunnelier, cueilleur d'oranges. Il dormait à l'Armée du Salut et souvent, il n'avait pas assez d'argent pour manger et fouillait dans les poubelles, tout simplement, pour trouver de la nourriture. Beaucoup d'errance. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il cherche un petit peu plus de stabilité, de sécurité. Et donc, ce sera à Vancouver, où il vient de subir une déception sentimentale. Et cela le pousse à remettre certainement tout en question.
D'accord.
Et il va repenser à son premier emploi avant de partir à l'aventure. Il était employé de banque en Écosse. Et il va franchir les portes de la Canadian Bank of Commerce de Vancouver. Et il est engagé immédiatement. Là, il a une trentaine d'années. Et c'est de là où il va apprendre que la banque recherche des volontaires pour partir dans les agences du Grand Nord canadien, où forcément la vie était un petit peu différente de celle de Vancouver ou Victoria, où il a pu habiter et travailler. Mmh. Et c'est là, donc, voilà, pose sa candidature, elle est acceptée, et quand il part dans le Grand Nord, la ruée vers l'or est terminée depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas l'effervescence de toute cette épopée humaine qui a secoué le Canada et les États-Unis. Mais 10 ans auparavant, il était en errance en Californie et il avait entendu parler de la ruée vers l'or.
D'accord.
Il savait ce qui s'était passé, mm-hmm. mais lui n'était pas intéressé par la recherche de l'or, en fait. C'était un poète, un rêveur, et aller chercher de l'or, ce n'était pas son souhait. Mais il se rappelait de la ruée vers l'or, et donc du coup, quand il débarque à Whitehorse, il est certainement intrigué, et immédiatement, il se plonge dans cette atmosphère, parce que même si la ruée vers l'or est terminée, la vie est encore assez riche à cette époque. Il y a toujours comme des prospecteurs, il y a toute cette ville, ces villes qui se sont créées, ce monde qui n'existait pas 10 ans plus tôt. Et là, ce sera le déclic pour lui, c'est la révélation. Est-ce qu'il s'y attendait? Est-ce qu'il avait un pressentiment? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour lui, ça y est, il a trouvé l'inspiration, pourrait dire. Mmh. Il a trouvé ce quelque chose qui lui manquait pour écrire des poèmes, après ça, qui seront un succès bien au-delà des frontières du Yukon. Et voilà, c'est à la fois l'atmosphère, les histoires des chercheurs d'or, les grands espaces,
oui.
cette nature sauvage, ce pays aux horizons infinis qu'il découvre.
Donc, il trouvait au Yukon quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé ailleurs.
Et oui, c'est ce que je pense.
Oui,
c'est ce que je
oui.
pense. Et pareil, quand il y est, la ruée vers l'or a été décrite notamment par Jack London, uh-huh. mais il n'y avait pas vraiment d'autres auteurs qui avaient célébré le Yukon, qui avaient écrit. C'était, voilà, il n'y avait pas vraiment d'écrit à ce sujet. Donc, il a été aussi le premier à dépeindre ce pays.
Donc, c'est comme vous l'avez dit, sa poésie a franchi les frontières, probablement a franchi l'Atlantique aussi, a séduit nombre de gens. Le barde du Yukon, « The Bard of the Yukon », comme on dit en anglais. Ça vient d'où, ce surnom, Charlotte?
C'est tout de suite après son premier succès, donc son premier livre qui est « Songs of a Sourdough ». Et rapidement, le livre est en tête des ventes au Canada. Et à l'époque, la revue littéraire « The Bookman » donc va le mettre en couverture de son magazine. Et c'est eux qui vont donner le nom de « Bard of the Yukon ». Celui qui a célébré, chanté le territoire du Yukon. Et À côté de cela, ils font une comparaison aussi en l'appelant le Kipling canadien.
D'accord, d'accord.
Alors... Parce que l'on retrouve aussi ouais. les mêmes thèmes d'homme face à la nature, la quête de soi.
Je dois vous demander, Songs of a Sourdough. Sourdough, c'est du pain levain, je crois bien.
Oui.
Pourquoi a-t-il intitulé son recueil de poésie Songs of a Sourdough?
Alors, sourdough, comme vous l'avez dit, c'est le levain, c'est le pain
oui.
que mangeaient les pionniers, les prospecteurs
d'accord.
d'or. Mais ça a une autre signification. Sourdough est en fait un vétéran du Yukon, c'est-à-dire un homme qui a vu la rivière Yukon gelée et dégelée, c'est-à-dire, en fait, entre les lignes, c'est-à-dire un homme qui a survécu à l'hiver arctique,
d'accord.
qui a réussi à survivre une année
oui.
dans ce pays.
Il faut bien mentionner qu'on est au début des années 1900, alors on n'a pas toutes nécessairement les facilités et le confort qu'on peut avoir maintenant. Comment est-ce que vous pourriez me décrire sa poésie, Charlotte?
Bien, sa poésie se distingue, je dirais, par trois aspects. En premier, ce sont les thèmes qu'il a abordés, c'est-à-dire des histoires, des thèmes réalistes. Il raconte des histoires et ses poèmes les plus connus, les plus célébrés, chantés, sont en fait des ballades, c'est-à-dire des longs poèmes qui racontent une histoire, qui ont souvent une note humoristique et à la fin une chute, un petit rebondissement. Je pense notamment à « The Shooting of Dan McGrew » et « The Cremation of Sam Maggie ». Voilà, ce sont ces deux poèmes les plus connus et ils ont ce caractère d'une histoire longue qui est racontée. Ensuite, je dirais en second point, c'est la musicalité de ces poèmes. Alors, ce ne sont pas forcément des poèmes construits d'une façon très élaborée, mais la rythmique, les rimes sont en général assez simples. Ce sont des poèmes qui ont vocation plutôt à être lus à haute voix, récités et partagés. Et il a beaucoup joué sur la répétition des sons dans les phrases, toutes les assonances. Et quand on les lit, ça crée une fluidité, quelque chose de très vivant. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de ces poèmes ont été mis en musique, parce que voilà, il y a cette facilité de les chanter. Et enfin, en dernier point, je dirais, certes, il a décrit le Yukon, les pionniers, des événements qui sont passés il y a un siècle, mais ce sont des événements du quotidien. Il était attaché à raconter des choses qui puissent toucher l'homme que l'on croisera voilà, au coin de la rue. Des choses qu'il a vécues, dont il a été les témoins, et qui certes sont ancrées dans une époque, mais dont dans le fond, il a réussi à faire ressortir un sentiment, une émotion qui dépasse le cadre de l'époque et dans lequel en fait on se reconnaît très facilement et qui font un écho en soi-même. Et voilà, un siècle plus tard, on peut lire du Robert Service et les poèmes ont toute leur force, tous leurs sentiments et on se reconnaît dans ce qu'il a pu écrire, qui abordent des thèmes en fait du bonheur, de l'amour de la nature, vivre en harmonie, voilà, le respect du monde qui nous entoure et toujours teinté d'optimisme.
Je vous rappelle que je suis avec Charlotte Service Longépée, qui est l'arrière-petite-fille de Robert Service, le barde du Yukon. Charlotte, je sais que vous avez traduit certaines œuvres de votre arrière-grand-père, parce qu'évidemment, il écrivait en anglais, il est écossais, je ne sais pas si vous avez l'intention de tout traduire. Il a écrit plus de 1200 poèmes, de ce que j'ai bien compris.
Alors, oui, je crois que je n'aurais pas assez d'une vie pour tout traduire.
C'est beaucoup, en effet. Mais vous en avez traduit quelques-uns que vous présentez ici et là. J'aurais envie de vous demander si vous pourriez nous lire un des poèmes de Robert Service. service.
Oh, ben oui, bien sûr, vous pouvez. Avec grand plaisir.
Alors, je vous le demande.
C'est toujours un plaisir de justement faire découvrir sa poésie au public francophone qui n'a pas forcément accès à l'anglais ou à toute la compréhension pour apprécier et saisir. Et justement, ça tombe bien parce que je suis en train de préparer un livre, un recueil de sa poésie traduite en français que j'espère publier d'ici l'automne. Voilà, qui va regrouper 70 de ses poèmes les plus connus et ceux qui peuvent plaire encore de nos jours et être appréciés. Et alors, je vais vous lire un poème que j'ai terminé la semaine dernière, justement, il est tout frais, qui s'intitule en anglais « Relativity », que je traduirai en français par « Relativité ». J'ai baissé les yeux sur une prairie couverte de pâquerettes, où une multitude de petits yeux, de neige et d'or, brillaient sur du velours. Elle me fit penser à des cieux étoilés. J'ai levé les yeux vers l'immensité de la nuit, où les étoiles semblaient si petites. Cette multitude de lumière me fit penser à une prairie de pâquerettes. J'ai pris une pâquerette dans ma main. Ses pétales neigeux étaient parés de roses, et avec son tout petit cœur d'or, j'ai pensé qu'elle brillait comme une étoile. J'ai rêvé que je cueillais dans les prairies du paradis une étoile que je tenais dans ma main. J'ai pensé, j'ai découvert le mystère de la création. Je comprends l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ainsi, selon les lois de l'univers, dans le temps et l'infini, j'en déduis qu'une pâquerette égale un soleil. Et l'instant entre deux battements de cœur égale l'éternité.
C'est absolument magnifique, Charlotte. C'est très, très beau, très, très beau. Et j'en ai des frissons dans le dos, je dois vous dire. C'est très, très beau. Alors donc, on le rappelle, et je pense que ça vaut la peine de le dire, que vous êtes en train de travailler sur un recueil de 70 des poèmes de votre arrière-grand-père, Robert William Service. Vous avez évoqué tantôt des chansons aussi qui ont été faites, puis je veux parler, entre autres, de la chanson « The Cremation of Sam McGee ». Et ce que je comprends de cette chanson qui a été reprise par Johnny Cash, c'est que c'est une histoire vraie.
Oui, 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 c'est cela. Quand il entend parler de cette histoire, donc il est à Whitehorse, il assiste à une petite réunion avec des amis.
Oui.
Et là arrive un homme, un pionnier qui revient voilà, d'une excursion un petit peu dans les criques et qui va commencer à raconter une histoire qui lui est arrivée justement. Avec son propre compagnon qu'il a été obligé d'incinérer. Alors, l'histoire vraie est certainement moins fantastique que ce que Robert Service a poétisé, mais voilà, il s'est toujours inspiré d'anecdotes ou de choses qu'il a pu entendre. Mmh. Et moi, The Cremation, c'est peut-être mon préféré parce que j'aime beaucoup le fantastique et le rebondissement final, l'humour, cette opposition entre le froid cruel du Grand Nord et la résurrection à la fin. Je trouve que le poème est vraiment, en dehors d'être une histoire amusante, derrière, il y a énormément de thèmes et d'aspects très profonds.
There are strange things done in the midnight sun by the men that toil for gold. The Arctic trails have their secret tales that would make your blood run cold. The northern lights have seen queer sights, but the queerest they ever did see was that night on the marge of Lake Lebarge that I cremated Sam McGee.
Dites-moi, j'aimerais que vous me parliez un peu de Lancieux, parce que votre arrière-grand-père a beaucoup vagabondé, il est allé au Yukon, mais il est allé un peu partout. La guerre aussi a fait en sorte, autant la Première Guerre mondiale que la Deuxième, a fait en sorte qu'il a dû se déplacer, et éventuellement, il s'est retrouvé à Lancieux, en Bretagne. Parlez-moi un peu de ce qui l'a amené là-bas et de ce que ça représente pour lui, Lancieux, en France.
Lancieux, je dirais, c'est d'abord une histoire d'amour, à la fois pour le lieu, et une histoire d'amour parce que en fait, quand il découvre Lancieux, c'est lors de son voyage de noces. Il se marie en 1913, il était, je pourrais dire, célibataire endurci, mais malheureusement, à Paris en 1913, il rencontre une jeune femme et c'est le coup de foudre. Et 3 mois après, ils se marient, ils partent en voyage de noces, bon, ils font l'Angleterre, les îles anglo-normandes, et ensuite, ils se baladent sur la côte d'Émeraude, c'est comme ça qu'on appelle cette région, parce que la mer prend des teintes émeraudes, magnifiques. Et donc, ils se promènent en amoureux, ils visitent plusieurs villages, ils restent quelques jours, ils louent à différents endroits, et à Lancieux, c'est différent. Il tombe sous le charme. Lancieux est niché en fait dans une baie, encerclé de rochers. Il y a une île qui délimite l'horizon. Ça crée des paysages très particuliers. On est en Bretagne, donc la mer est sous l'influence des marées. Un paysage très changeant. Et il y a une maison en fond de mer qui vient d'être construite et qui est à la location. Il tombe amoureux du lieu et au lieu seulement de louer, il l'achète. Et ce sera son point d'ancrage pendant 40 ans.
Et voilà, et puis si je comprends bien, il est inhumé au cimetière municipal de Lancieux.
C'est ça, et le caveau familial, et c'est là où il a choisi de reposer éternellement.
Nous avons parlé récemment à Yann Herry, que vous connaissez parce que Yann Herry, c'est un des pionniers francophones du Yukon, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas de la francophonie moderne.
C'est un bon terme, oui.
Oui, tout à fait. Yann nous mentionnait, et vous l'avez évoqué aussi un petit peu plus tôt dans l'entrevue, qu'il y a eu un jumelage de fait entre Whitehorse et Lancieux. Parlez-nous de ça un peu.
Eh bien, depuis l'an 2000, les deux villes sont jumelées grâce au souvenir de Robert Service, qui a vécu dans les deux lieux, qui a aimé ces deux lieux. Et donc, depuis 2000, des cérémonies, il y a le lever de drapeau tous les quatrièmes lundis du mois d'août à la mairie de Lancieux, et des échanges culturels, des échanges scolaires. Je pense que Yann Herry a dû l'évoquer. Et ce lien qui perdure à travers le temps, justement, entre les deux lieux. Il y a à Lancieux une école qui s'appelle l'école municipale, qui a été baptisée Robert Service, et qui, elle aussi, fait des échanges avec l'école Robert Service de Dawson City. Donc, c'est cette continuité d'émulation, de partage, une œuvre littéraire, de la poésie, crée un lien, crée une histoire entre des lieux diamétralement opposés et au climat complètement aussi différent, mais qui sont reliés par un lien, en l'occurrence Robert Service.
Et Charlotte, vous avez évoqué deux écoles, celle à Dawson City et puis celle à Lancieux, mais il y en a deux autres également. Il y en a même une en Alaska qui porte le nom de votre arrière-grand-père.
En Alaska et à Scarborough, en Ontario, baptisé Robert Service. Et je pense qu'il serait vraiment ravi que des écoles aient été baptisées de son nom, parce qu'il y a dans la poésie de Robert Service, je l'ai remarqué lors de mes recherches et à chaque fois que je rencontre des gens qui apprécient sa poésie, c'est ce lien générationnel. Souvent, ce sont des grands-parents qui ont récité les poèmes à leurs petits-enfants et eux-mêmes vont reproduire et réciter à leurs propres enfants. Et c'est un facteur de partage, émotionnel de cette poésie récitée, partagée en famille. Et c'est ce qui fait la beauté des écrits.
Et il y a des rues, il y a des boulevards qui sont nommés également, des plaques qui sont en hommage à votre arrière-grand-papa. Je rappelle que vous avez écrit un roman qui s'appelle Robert W. Service, La piste de l'imaginaire, qui est paru aux éditions JCL, qui est une maison d'édition québécoise d'ailleurs. C'est paru en 2015. J'imagine que c'est toujours disponible.
Toujours disponible, et Voilà, je pense sur Internet ou alors les personnes peuvent me contacter directement et je me fais une joie en plus d'envoyer le livre avec une dédicace personnalisée.
Charlotte, c'est assez extraordinaire comment vous avez réussi à nous transporter un peu partout au Yukon, dans le monde. Et puis, ça a été un plaisir de voyager avec vous grâce à l'œuvre aussi de votre arrière-grand-papa, Robert William Service. Ça a été un plaisir de vous rencontrer aussi, Charlotte Service Long-GP. Merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue.
Le plaisir est partagé.
Raconte-moi, le bard du Yukon est une production de Web West Balado animée par Jean Fontaine et réalisée par Yann Dallaire. Notre invitée, Charlotte Service Long-GP.